Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovin, Gwendoline Troyano et Elliot Baucher. À la réalisation, Charlotte Roux. À la technique, Alice Seyed.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Notre série consacrée au spectre de la récession se poursuit. Lundi, nous avons évalué l'ampleur et la gravité du ralentissement économique mondial. Hier, c'est la mission des banques centrales volant au secours de la croissance que nous avons examinée. À présent, notre réflexion nous mène sur les pas de Marx et Engels à l'heure des révolutions de 1848. La crise économique de la fin des années 1840 a été interprétée par la pensée socialiste naissante comme le véritable déclencheur des mouvements sociaux qui entraînent la chute de la monarchie de Juillet. Une conception qui a fait l'objet de débats historiographiques et qui nous invite à interroger les liens entre récession et révolution. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir sur les origines économiques des révolutions de 1848 en compagnie de Fabrice Ben-Simon, professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Paris-Sorbonne et co-auteur avec Laurent Colantonio de La Grande Famine en Irlande, paru aux Presses universitaires de France. En compagnie également de Patrice Bobo, historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
Ces pauvres enfants, qui perdent la vie de si effroyable manière, sont vraiment les victimes de notre désordre social et des classes qui ont intérêt à ce désordre. Et cependant, on peut se demander si cette mort douloureuse et horrible n'a pas été un bienfait pour ces enfants, en leur épargnant une vie longue et lourde de peine et de misère, riche en souffrance et pauvre en joie. Voilà où l'on en est en Angleterre, et la bourgeoisie, qui peut lire ces nouvelles chaque jour dans les journaux, ne s'en soucie point. Mais elle ne pourra pas non plus se plaindre si, me fondant sur les témoignages officiels et officieux que j'ai cités, et qu'elle doit sans aucun doute connaître, je l'accuse carrément d'assassinat social.
Patrice Bobo et Fabrice Ben-Simon, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Assassinat social, l'accusation est portée par Friedrich Engels dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre, un ouvrage qui est publié en 1845. Alors que vous inspire ce texte pour commencer, Fabrice Ben-Simon ?
Bah, c'est un texte très fort. Alors Engels, en 1845, revient de 2 années à Manchester où il a été... travailler dans la fabrique de son père et surtout s'imprégner de cette révolution industrielle dont la Grande-Bretagne est la pionnière. Et il a observé, il est vraiment au cœur de cette industrie naissante, au cœur de l'industrie textile. Il a été le témoin, il a côtoyé de nombreux militants, des militants socialistes, des militants chartistes, des syndicalistes.
Alors, il faut expliquer, le mouvement chartiste, c'est un mouvement qui commence à partir de 1838 à peu près,
voilà,
en Angleterre.
C'est un grand mouvement ouvrier qui commence en 1838, qui s'articule autour de revendications démocratiques, du suffrage universel en particulier, et qui mobilise de très vastes masses ouvrières en Grande-Bretagne. Plusieurs millions de femmes et d'hommes signent les pétitions chartistes, participent à des rassemblements, à des manifestations, on appelle ça des processions, voire à des tentatives d'émeutes ou d'insurrection. Donc Engels est le témoin de cette ébullition, de cette agitation, de cette vague de contestation, et découvre au fur et à mesure ce qu'est la réalité de la condition ouvrière dans l'Angleterre des années 1840, il y a une condition très dure.
Il se rend en Angleterre précisément parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'Angleterre est alors la première puissance industrielle d'Europe. Elle a commencé sa révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, avant la France et l'Allemagne.
Voilà, l'Angleterre, en effet, enfin la Grande-Bretagne plus largement, parce qu'il y a aussi toute une industrie qui s'est développée au sud du Pays de Galles et en Écosse. La Grande-Bretagne est le pays qui s'engage dans la révolution industrielle le premier. Donc à Manchester, par exemple, dans les années 1840, il y a environ 500 cheminées, autant de machines à vapeur qui font tourner les usines textiles, d'abord dans le filage du coton, puis dans le tissage. La mécanisation du tissage du coton est déjà bien engagée. Et puis dans d'autres secteurs qui, au fur et à mesure, gagne le pays. Donc il y a toute la formation d'une classe nouvelle de prolétaires, souvent originaires de petites villes, voire des campagnes, qui s'agrègent dans ces grandes métropoles telles que Manchester, et dont Engels et rapporte la condition dans cet ouvrage.
Patrice Bobo, une réaction peut-être au texte de Engels que l'on a entendu ?
Oui, c'est un texte qui nous parle toujours, comme beaucoup des textes de cette époque-là, puisqu'il décrit l'irruption violente de la modernité. Une modernité qu'Engels, parmi d'autres, essaye d'explorer pas simplement sous son volet positif, qui avait été un peu le point de vue dominant, et dont il montre à la suite d'autres, on peut penser à Sismondi notamment, que cette modernité entraîne avec elle un cortège de souffrances, et qu'il est aisé de ne pas voir ces souffrances parce qu'on peut les cantonner dans des lieux lointains, invisibles. Alors à l'époque ce sont des quartiers de relégation, puis aujourd'hui ce sont des pays lointains.
Mmh. Un mot peut-être sur Engels, sur sa formation intellectuelle, quelles sont ses inspirations, Fabrice Ben-Simon, quand il se rend précisément en Angleterre.
Donc Engels, il est tout jeune, hein, puisqu'il naît en 1820 et il arrive à Manchester en 1842. Il est d'une famille aisée, de Rhénanie. Son père est fabricant dans le textile et il a une formation philosophique. C'est un Hegelien, comme Marx à cette époque. Engels, d'ailleurs, rencontre brièvement Marx avant de partir pour la Grande-Bretagne dans le journal La Gazette Rhénane, auquel Marx participe à Cologne. Mais pour lui, l'industrie moderne, l'économie politique, dont il est largement question dans ces textes, ce sont des choses nouvelles.
Sa lecture, c'est de dire que finalement, les sociétés industrielles ont accentué la précarisation des ouvriers. Qu'est-ce qu'on peut dire des salaires, peut-être des ouvriers à l'époque, Patrice Bobo ?
Alors, c'est une question qui est très débattue, très compliquée, parce que il y a beaucoup de problèmes de mesure et de définition. Par exemple, est-ce que ce qui est significatif, c'est le salaire horaire, celui que l'on touche pour une tâche bien définie, ou est-ce que c'est le nombre d'heures que l'on travaille, ou le nombre de jours que l'on travaille, ou les saisons, et il y a des saisons creuses et des saisons pleines, ou le revenu au long de la vie. Donc ça, c'est une première. Vous voyez, toutes ces façons de voir le salaire au fil de la vie d'un individu, et puis cet individu n'est pas seul, il s'inscrit dans une communauté familiale d'abord, ou locale, et là encore, est-ce que le salaire qu'il va gagner suffit à faire vivre sa famille ? Est-ce qu'il a besoin du travail, rémunéré ou non rémunéré, de ses proches, des autres membres du foyer, notamment de la femme et des enfants ?
Donc ce qu'on peut dire peut-être, c'est que c'est un salaire qui est un peu plus élevé en ville, dans les usines en ville qu'à la campagne, voilà. Ça c'est une des choses que l'on
Alors,
sait.
Alors ce qu'on sait, c'est ça, c'est que d'un point de vue monétaire, les salaires sont plus élevés, nettement plus élevés en ville qu'à la campagne. Après, est-ce que ça se traduit par d'abord une amélioration du pouvoir d'achat et ensuite par une amélioration du niveau de vie? Ça, c'est les grands débats historiographiques. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toujours un conflit assez fort pour savoir si la révolution, ce qu'on appelle la période de la révolution industrielle, en gros entre 1780 et 1850-60, est marquée par une amélioration continue du pouvoir d'achat ou au contraire par sa dégradation, premier élément, par une amélioration des conditions de vie des ouvriers ou par sa dégradation. Et Engels écrit au moment où on peut dire c'est le creux de la vision pessimiste du niveau de vie des ouvriers en Angleterre.
Et vous l'avez dit, en effet, il n'est pas le seul à s'intéresser à la vie de ce qu'on appelle à ce moment-là les classes laborieuses. Il y a beaucoup dans les années 30 et 40 d'écrits sur la situation des ouvriers, Fabrice Ben-Simon.
Oui, ce qu'il y a, c'est que Manchester et la Grande-Bretagne apparaissent déjà aux yeux de nombreux continentaux comme un peu ce qui présage pour l'avenir, parce qu'il y a ces machines extrêmement impressionnantes à la productivité, qui permettent une productivité accrue, qui rendent l'industrie britannique compétitive. Donc beaucoup de gens vont à Manchester pour voir, se rendre compte, étudier, observer. Il y a des gens qui vont pour des raisons pour faire affaire, et puis il y a des observateurs sociaux et politiques.
Et il y a aussi des travaux en France, on peut citer ceux de Villermet, par exemple, ou de Eugène Buret, Édouard Ducpessio. Il y a beaucoup d'écrits comme ça qui circulent à ce moment-là, Patrice Bobo.
Alors énormément, et sur trois grandes lignes d'interprétation de ce qui se passe à Manchester et plus généralement en Angleterre, c'est-à-dire des interprétations sur ce qui se passe d'un point de vue social, hein, vous avez cité Villermé, ce qui se passe d'un point de vue peut-être plus politique, hein, Tocqueville est un témoin intéressant par son voyage en Angleterre et notamment à Manchester, mais également des analyses économiques, hein, parce que la question qui agite en quelque sorte les cercles intellectuels économistes dans les années 1830 et 1840, c'est cette réalisation que la crise qui est en dehors du cadre d'interprétation économique dominant est un phénomène récurrent. Et on va commencer à parler d'ailleurs de ce qu'on appelle les crises périodiques, c'est-à-dire que le système générerait de manière régulière des crises qui se traduisent par une aggravation de la situation des ouvriers.
C'est quelque chose qui est théorisé par exemple par le médecin et économiste Clément Juglar.
Oui, mais après la crise de 1845-1848, il vient après, même si les prolégomènes sont posés juste à ce moment-là par cet auteur. Ce qui est intéressant chez Juglar, c'est que c'est un médecin de formation et qui va employer comme définition de la crise économique une définition qui est la définition médicale de l'époque. C'est-à-dire que la crise, c'est un moment très court dans le temps, un point de retournement, le moment où le patient hésite entre la vie et la mort. Eh bien, pour Juglar, c'est pareil, la crise, c'est ce moment de basculement des indices économiques depuis un mouvement ascensionnel, en gros, vers la baisse.
Alors, on va en venir, évidemment, à la crise économique de 47 et à la révolution de 1848. Mais avant cela, il faut peut-être donner plus de détails sur cette première moitié du 19e siècle et peut-être sur le démarrage industriel français. À qui profite, à ce moment-là, ce décollage économique de la France?
Alors, un des problèmes qui explique en fait qu'il y ait autant d'interprétations divergentes, c'est que ce qui va caractériser l'émergence de l'industrie nouvelle, c'est son caractère extrêmement local et son impact extrêmement global. C'est-à-dire que auparavant, schématiquement, toutes les activités avaient des niveaux de productivité plus ou moins comparables et on avait à la fois une dispersion de l'activité, une dispersion de la création de richesses. Schématiquement, on avait un tissu géographique qui était peut-être, d'un point de vue économique ou de la valeur ajoutée, plus homogène. Avec le développement de l'industrie concentrée, qui est l'industrie moderne, au contraire, on va avoir une concentration des forces productives en un lieu, donc une intensité de production de richesses considérable à un endroit, et qui va avoir un impact très très large, aussi bien sur la production des zones qui sont en quelque sorte victimes de la concurrence de ces lieux de concentration productive, donc sur la production et sur la consommation. Parce qu'évidemment, si on produit beaucoup à un endroit, c'est pour vendre partout. Mmh. Et donc, ça veut dire que faire un tableau global de l'effet, des effets est très difficile. Parce que ce qui caractérise la révolution industrielle, c'est l'accentuation des contrastes, l'augmentation des inégalités dans toutes les dimensions.
Et ce qui caractérise cette première moitié du 19e siècle, c'est effectivement le fait que c'est une période de crise économique et de développement, de crise de surproduction industrielle et de sous-production agricole chronique, Patrice Bobo.
Alors, c'est pas chronique, mais ça fait apparaître finalement un scandale qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que les crises, c'est pas quelque chose de nouveau. Les famines, les difficultés économiques et sociales, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ce qui est tout à fait nouveau, ce qui scandalise les gens à l'époque, c'est l'apparition de ce phénomène de la crise, de la misère dans la prospérité et dans l'abondance. C'est-à-dire qu'on a simultanément l'abondance, la production la plus efficace possible et des situations de misère indicibles. Et c'est ce contraste qui choque.
Et c'est dans ce contexte que naît la pensée socialiste dans différents pays européens, et notamment en France. Autour de quel théoricien est-ce qu'elle s'articule? Et dans quelle mesure est-ce qu'elle s'inspire, par exemple, de la révolte des Canuts à Lyon dans les années 1830?
Alors, il y a beaucoup de sources du socialisme. Certaines sont ambiguës. Par exemple, Saint-Simon, qui est souvent crédité comme l'un des inventeurs du terme de socialisme, a une pensée qui est à la fois technocratique, sociale, au sens où il y a une conception de l'organisation sociale de la société et économique, et bon, ça va développer cette secte saint-simonienne qui ensuite aura un impact non négligeable sur le mouvement d'industrialisation de la France avec des gens comme L'Enfantin ou les frères Pereire. Et puis, il y a des économistes, par exemple, on a parlé de Sismondi, qui est le premier à articuler une théorie des crises contemporaines et des aspects ambigus du progrès de la production industrielle, Hein, c'est le premier à mettre ça en avant, et notamment en témoignant de ce qui se passe en Angleterre. C'était, il appuie en fait sa critique de Ricardo, notamment sur ce qu'il voit et sur ce qu'il lit sur la situation d'Angleterre. On peut penser à des gens aussi comme Blanqui. Mais avant ça, il y avait eu ce qui est un petit peu l'origine de ce qu'on a appelé ensuite le communisme, évidemment, la révolte de Gracchus-Babeuf et les mouvements qui s'en sont inspirés par la suite. Et donc ça a donné une sorte de d'effervescence intellectuelle dès après la chute de l'Empire, du Premier Empire, qui a inspiré de très nombreux mouvements.
Et alors venons-en à cette récession de 1846-47. Quelles en sont les causes, Fabrice Ben-Simon? Il y a des causes que l'on peut observer en Angleterre, en Irlande. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette crise?
Alors en Grande-Bretagne et en Irlande, elle se manifeste principalement deux formes. D'une part, il y a une crise agraire. En Irlande, il y a une série d'échecs de la récolte de la pomme de terre. La pomme de terre est un aliment de base en Irlande et une culture essentielle dans l'économie de l'île.
Ce qui va entraîner des migrations de millions d'Irlandais.
D'abord, qui entraîne la mort de sans doute 1 million d'Irlandais. Donc 1 million d'Irlandais, pour donner un ordre de grandeur, à l'époque, l'Irlande, c'est environ 8,5 millions d'habitants. Donc c'est peut-être un huitième de la population qui est tué, c'est considérable. Il y a des taux bien supérieurs, par exemple, à ce que représente la Première Guerre mondiale dans des sociétés comme la France ou l'Allemagne. Et puis, qui se traduit en effet par l'immigration immédiate d'au moins 1 million d'Irlandais, et puis sur une décennie de 2 millions, et puis de façon durable, une immigration vers l'Amérique. Donc ça, c'est un aspect. C'est et cette crise agraire, cette crise agricole, elle se manifeste aussi dans d'autres régions de l'Europe. Je pense par exemple aux Flandres ou à la Silésie.
On va
voir. Il y a une crise industrielle et commerciale dont on va peut-être parler.
Absolument, on va voir justement dans quelle mesure cette crise agricole a des liens avec la crise industrielle. Et puis il y a aussi cette bulle spéculative sur le chemin de fer en France et en Angleterre. Pour en finir d'un mot sur le constat de l'ampleur de cette crise de 1846-1847, Patrice Bobeau.
Alors, le travail que j'ai fait portait uniquement sur la France. Il y a eu d'autres travaux comparatifs qui sont très intéressants. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que si on prend des mesures qui sont contestables, hein, c'est toujours le problème parce que ce sont des mesures a posteriori, mais des évaluations qu'on peut faire aujourd'hui du PIB, de son évolution et de ses composantes pour le 19e siècle, clairement la crise de 1848, ce qu'on va appeler la crise de 1848 qui commence avant, est la plus grave crise économique en France au 19e siècle. C'est la crise centrale.
Et toute la question est justement, est-ce que cette crise a entraîné ensuite les troubles politiques et sociaux qui vont caractériser l'année 1848 ?
Messieurs, je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'état actuel des choses, l'état actuel de l'opinion, l'état des esprits en France, est de nature à alarmer et à affliger. Pour mon compte, je déclare sincèrement à la Chambre que, pour la première fois depuis 15 ans, j'éprouve une certaine crainte pour l'avenir. Et ce qui me prouve que j'ai raison, c'est que cette impression ne m'est pas particulière. Je crois que je puis en appeler à tous ceux qui m'écoutent et que tous me répondront que, dans les pays qu'ils représentent, une impression analogue subsiste, qu'un certain malaise, une certaine crainte a envahi les esprits. Que, pour la première fois peut-être depuis 16 ans, le sentiment, l'instinct de l'instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions qui souvent les annonce, qui quelquefois les fait naître, que ce sentiment existe à un degré très grave dans le pays.
Voilà l'intuition d'Alexis de Tocqueville, extrait d'un célèbre discours prononcé le 27 janvier 1848 à l'Assemblée nationale, un mois avant les journées de février. Quel est alors le climat politique et social en France, Fabrice Ben-Simon ?
Alors, c'est vrai que Tocqueville est dans une posture qui est très différente de celle d'Engels, puisque Tocqueville, il redoute la crise, alors que Engels, en quelque sorte, appelle la transformation de la crise sociale en crise politique, en révolution sociale. Ce qu'il y a en France, Patrice Bobeau pourrait peut-être mieux répondre que moi, je crois qu'il y a une crise agraire qui est importante, qui se traduit en particulier par le fait qu'il y a parmi les dernières émeutes frumentaires, en particulier à Buzancé, c'est une émeute célèbre, où, voilà, donc on est prêt à mourir pour obtenir un peu de pain, un peu de blé, un peu de farine. Et il y a également une crise industrielle et commerciale qu'on vient d'évoquer.
Et en même temps, des mouvements politiques qui commencent à s'organiser. Et je pense en particulier aux banquets républicains qui commencent à se mettre en place.
Alors en effet, bon, y a une opposition républicaine depuis déjà quelques années à la monarchie de Juillet, au régime de Louis-Philippe qui est en place depuis 1830. Mais disons que là, à la fin de 1847 et au début de 1848, il y a une accélération avec une campagne de banquets qui a un certain succès, donc qui se traduit à la fois par des réunions, ces fameux banquets, et puis par des campagnes de presse, toute une agitation qui gagne les villes avec cette crise à l'arrière-plan, en particulier l'augmentation des prix du blé, le fait que beaucoup de citadins sont sans travail. En effet, de nombreux ferments pour qu'une explosion sociale, pour que la campagne politique se transforme en explosion.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait du film de Raoul Peck, Le jeune Karl Marx. C'est Pierre-Joseph Proudhon, interprété par Olivier Gourmet, qui s'exprime ici.
C'est avec plaisir que je prends place parmi vous à ce banquet républicain.
Et Proudhon !
Ils veulent les supprimer, ces banquets, parce qu'ils ont peur de votre colère. Et ils ont raison d'avoir peur, car il y aura toujours plus de peuple que de police, et de soif de liberté que de répression. Car c'est vous les artisans, les tisserands, les cordonniers, les tailleurs, les charpentiers, qui fabriquez la richesse de ce pays.
Et les ouvriers alors, les terrassiers, les mécaniciens, les gars des forts.
Je ne les oublie pas. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, enchaînés à ces nouvelles machines de feu et d'enfer, et qui n'ont parfois même pas le pain pour soutenir leur force. Il faut le dire tout net, tout simplement, on les assassine. On arrive à mon sujet. Qu'est-ce que l'esclavage? Si je réponds, c'est l'assassinat, vous êtes aussitôt d'accord. Alors pourquoi la question? Qu'est-ce que la propriété? Si je réponds, c'est le vol. Dois-je sans cesse devoir m'expliquer?
Voilà la harangue de Proudhon lors de l'un de ces fameux banquets républicains. Et c'est l'annulation d'un banquet organisé à Paris. Annulation par Guizot, chef du gouvernement de Louis-Philippe, qui va déclencher les journées de février 1848. Patrice Bobeau.
Alors, oui. Oui. Mais c'est un peu plus compliqué. Ces banquets ont été organisés parce que les réunions ont été interdites. Et donc, pour contourner l'interdiction de réunion, on a organisé cette campagne de banquets qui permettait à des commensaux, finalement, de partager plus que du pain et du vin. Et un banquet est prévu à Paris pour terminer cette campagne, en quelque sorte. Alors, évidemment, on peut dire, oui, c'est l'interdiction de ce banquet par Guizot. Et la manifestation que cela provoque en protestation, qui est le phénomène déclencheur. Mais pour que ça soit déclenché, il a fallu d'abord une mobilisation. Et cette mobilisation, comme on l'entend un peu dans le discours de Proudhon, et avec cette phrase « la propriété, c'est le vol » qui a été rendue célèbre par son ouvrage, il y a derrière ça, il faut une mobilisation idéologique, il faut qu'il y ait des mots d'ordre qui s'imposent. Et puis d'autre part, il faut qu'en face, il y ait une vacuité du pouvoir, ou tout au moins que ceux qui font rempart pour le pouvoir soient prêts à rejoindre ou à laisser passer les protestataires. Et c'est ce qui se passe.
En l'occurrence, ces banquets républicains sont de plus en plus investis par des idées socialistes, alors qu'au départ, peut-être qu'ils étaient plus le lieu pour discuter d'un élargissement du suffrage.
Alors, il y a des idées socialistes, mais socialisme de l'époque, c'est quelque chose qui est très vaste, hein, qui est très ouvert, qui n'est pas encore tout à fait structuré, avec des tensions internes très très fortes. Hein. On pense au texte de Marx en réponse à Proudhon sur la misère de la philosophie, Proudhon ayant écrit la philosophie de la misère. C'est-à-dire qu'il y a des approches extrêmement contrastées, des dimensions utopiques très fortes. Donc c'est un immense domaine qui est travaillé par des forces contradictoires. et où il y a des mots d'ordre qui peuvent fonctionner de manière commune, notamment la lutte contre la misère, la pauvreté, etc. Et d'une certaine façon, c'est là où la crise est importante, c'est qu'elle va permettre, comme le disait Labrousse, de synchroniser des mots d'ordre, des idées, des positions qui sont sinon relativement contradictoires.
Mais c'est tout de même ces positions et ces tendances peut-être modérées et socialistes qui vont dominer le gouvernement provisoire qui va naître en février 1848 après l'abdication de Louis-Philippe.
Alors oui, là encore, y a de l'improvisation et il faut parfois réagir de manière extrêmement rapide à des situations qui changent ou qui se détériorent très vite. Par exemple, la question de la finance et de la monnaie est vue de manière très secondaire dans un premier temps. Mais la situation économique antérieure plus les désordres créés par la Révolution, et notamment le problème du paiement à l'échéance des dettes, hein, l'économie française fonctionne beaucoup à crédit à cette époque comme aujourd'hui, vont imposer remettre la monnaie et la finance en les mains de l'État. C'est tout à fait nouveau. D'habitude, quand l'État se saisissait de la monnaie et de la finance, ça déclenchait la crise. Ah, pour la première fois en 1848, l'État se saisit de la monnaie et de la finance pour protéger les marchés et la devise.
Alors, il y a une progression de ces idées socialistes, mais ensuite, il y a les élections d'avril 1848. Et là, cette fois, ce sont les conservateurs qui vont arriver au pouvoir. Patrice Bobeau, comment on explique l'arrivée au pouvoir des conservateurs?
Ça illustre bien, en fait, ce phénomène, finalement, d'une révolution industrielle dont la production, la concentration est très locale et dont les effets sont très globaux. Finalement, cette agitation autour des nouvelles formes de misère correspond bien à la révolution industrielle, mais celle-ci ne touche de manière visible qu'une toute petite partie du territoire. Et il est vrai, et c'était le reproche que faisaient les socialistes en général à ces élections d'avril 1848, que il a manqué en quelque sorte de temps pour ces forces politiques pour expliquer leur position. Et donc ce qui a...
La population n'était pas assez éduquée, c'est l'un des arguments qu'on avance souvent.
Ou informée.
Souvent.
Alors éduquée, c'est un peu méprisant, mais en tout cas, du point de vue des socialistes, pas assez informée. Et ce qui est certain en tout cas, c'est que dans un territoire qui est travaillé par une aggravation, une accentuation des inégalités de production et d'organisation, avec une centralisation sur les villes de la production de richesses, eh bien on a électoralement une opposition très nette qui apparaît entre l'électorat des campagnes et l'électorat des villes.
Je voudrais à présent que l'on écoute une lecture de la lutte des classes en France que Karl Marx publie en 1850.
En imposant la République au gouvernement provisoire et par ce dernier à toute la France, le prolétariat se mettait immédiatement au premier plan en tant que parti indépendant. Mais du même coup, il jetait un défi à toute la France bourgeoise. Ce qu'il avait conquis, c'était le terrain en vue de la lutte pour son émancipation révolutionnaire, mais nullement cette émancipation elle-même. La République ne rencontra aucune résistance, pas plus au dehors qu'au dedans. C'est ce qui la désarma. Sa tâche ne fut plus de transformer révolutionnairement le monde, elle ne consista plus qu'à s'adapter aux conditions de la société bourgeoise. Rien ne témoigne plus éloquemment du fanatisme avec lequel le gouvernement provisoire s'employa à cette tâche que les mesures financières prises par lui. On sait que les ouvriers, avec un courage et un génie sans exemple, sans chef, sans plan commun, sans ressources, pour la plupart manquant d'armes, tinrent en échec 5 jours durant l'armée, la garde mobile, la garde nationale de Paris, ainsi que la garde nationale qui afflua de la province. On sait que la bourgeoisie se dédommagea de ces transes mortelles par une brutalité inouïe et massacra plus de 3000 prisonniers.
Voilà, Marx fait allusion ici à la répression des mouvements en juin 1848, après la décision de fermer les ateliers nationaux. Quel est le regard qui est posé ici par Karl Marx sur cette révolution française de 1848, Patrice Bobeau?
Alors, derrière ça, il y a un schéma des révolutions chez Marx. C'est-à-dire que la bourgeoisie a eu un rôle révolutionnaire en 1789, elle a un rôle conservateur en 1848. Hein. Donc ce rôle révolutionnaire, il est transmis un peu comme un témoin de la bourgeoisie au prolétariat, qui est la nouvelle classe ascendante. Et donc la révolution n'aura de sens que prolétarienne. Donc il y a une vision de l'histoire qui est en cause ici et qui soutient cette interprétation. Ce n'est pas une pure description.
Voilà. Fabrice Ben-Simon.
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu deux temps dans cette révolution de 48 en France. Et autant en février, lors de la chute de la monarchie de Juillet, il y a une certaine unanimité pour la proclamation de la République, autant quatre mois après, on est dans une configuration très différente où la République bourgeoise s'oppose frontalement à ceux qui réclament du pain, ceux qui réclament parce qu'à travers les ateliers nationaux, c'est la question du travail, du salaire et donc de
la. Et la journée de 10 heures, par exemple, qui est un des progrès sociaux qui va être annulé.
Tout à fait, mais en fait, en juin 48, la façon dont l'insurrection est déclenchée, c'est tout simplement par la suppression des ateliers nationaux qui permettent à de nombreux ouvriers, ne serait-ce que d'avoir un revenu, un salaire leur permettant de vivre. Et donc, c'est vrai que juin 48, c'est aussi, pour Marx et pour de très nombreux observateurs de cette époque, le premier affrontement politique national entre cette classe nouvelle, qui s'était déjà manifestée de nombreuses façons auparavant, dans des grèves, dans les émeutes des canuts dont vous avez parlé, mais là, sur le plan politique, qui s'affronte à l'État. Et ça, c'est quelque chose d'inédit.
Et l'une des questions qu'il se pose, c'est pourquoi cette révolution n'a pas eu lieu en Angleterre, le berceau industriel. Il y avait la révolte, on évoquait tout à l'heure les révoltes chartistes. Avant cela, il y avait les révoltes ludistes qui sont connues, ces ouvriers, pour casser leurs appareils de production. Pourquoi cette révolution n'a pas eu lieu en Grande-Bretagne ?
Alors, en Grande-Bretagne, il y a de très nombreux affrontements également entre ouvriers entre les ouvriers chartistes. Le petit peuple chartiste, parce qu'il y a de très nombreux artisans, il y a des gens de différents métiers qui sont regroupés derrière cette bannière, et d'une part, et puis en face, l'État, les autorités, et une bourgeoisie qui peut-être adhère plus largement au régime qu'elle ne le fait en France vis-à-vis de la monarchie de Juillet. Et c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il y a une bourgeoisie moyenne, bourgeoisie importante également, mais aussi une bourgeoisie plus de marchands, de commerçants qui se sont enrichis au fil des années précédentes, qui ont acquis aussi le droit de vote, qui participent aux affaires, à la gestion notamment des paroisses et des municipalités, et qui défendent la propriété, qui considèrent que ça fait aussi partie de leur rôle de prêter main forte aux autorités pour s'opposer aux chartistes et les faire échouer.
Oui, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que ces mouvements sociaux révolutionnaires s'étendent alors à d'autres pays européens. Patrice Bobo, on peut penser à l'Irlande, l'Allemagne, la Hongrie.
Alors on les retrouve presque partout, ou en tout cas on retrouve une dimension sociale dans presque tous les pays d'Europe, avec cette différence forte, si on compare notamment avec la France, la Grande-Bretagne et la Belgique en particulier, que dans presque tous les autres cas, il y a une dimension nationale ou nationaliste qui s'associe à ces mouvements sociaux et qui va leur donner une coloration particulière. Et c'est pour ça qu'on va parler du printemps des peuples en 1848. Donc en Belgique, c'est la fameuse proclamation d'un des députés qui dit que pour faire le tour du monde, la liberté n'a pas besoin de passer par la Belgique, comme si finalement la constitution belge, par les garanties formelles des droits qu'elle proposait, assurait qu'il n'était plus besoin de faire une révolution, qui a été entièrement réalisée, ce qui n'était pas le cas en France. En France, c'est une révolution qui est d'abord de nature sociale. Il n'y a pas véritablement de dimension nationale dans les mouvements qui se développent à ce moment-là. Et c'est un peu la même chose en Grande-Bretagne, avec l'exception de l'Irlande, où là... Évidemment, la crise telle qu'elle se déroule, dramatique, comme l'a expliqué Fabrice Ben-Simon, va provoquer un réveil très fort de la pensée nationale irlandaise. Voilà, c'est ça qui distingue finalement ces trois pays centraux dans l'émergence de la révolution industrielle par rapport au reste de l'Europe.
Et alors, ce qu'on peut dire également, c'est qu'Engels avait prévu, en quelque sorte, la crise dès 1844, une crise qui devait être, selon lui, à la fois économique et politique, mais qui devait être liée à la fin du monopole industriel anglais face à la concurrence américaine et allemande. Sur ce point, il s'est trompé, Patrice Bobo.
Alors, en fait, je dirais même qu'il s'est trompé surtout là-dessus. C'est-à-dire qu'il a prévu la crise, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que ça n'a rien de propre à Engels. Depuis, en gros, les années 1810, les observateurs critiques de la modernité industrielle annoncent la crise. Et effectivement, elle vient. Tous les 10 ans, à peu près, un peu moins, il y a une crise. Il y en a eu en 1825, énorme, considérable, dont on a attendu la fin du système. Il y en a eu une encore en 1829-1830, associée à la chute de la monarchie française, hein, de la Restauration.
Et Engels
encore
se trompe.
En 1839.
Et Engels se trompe d'autant plus, pardon de vous couper, qu'il annonce une révolution marxiste et qui prévoit véritablement la fin du capitalisme.
Alors, et ça c'est le deuxième élément, c'est-à-dire que dans cette conception-là, toutes les crises sont associées les unes aux autres. C'est-à-dire que, et ça va rester au cœur de l'interprétation marxiste, la crise sociale, c'est aussi la crise économique, c'est aussi la crise politique, c'est aussi la crise de régime, et la révolution, c'est la résolution de toutes ces crises. D'accord ? Tout ça va ensemble.
Fabrice Ben-Simon, vous voulez réagir ?
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence importante entre Engels et les nombreux observateurs critiques comme Tocqueville ou Léon Fauché ou d'autres sur cette crise, c'est un engagement personnel. C'est-à-dire que Engels, quand il dit voilà, la crise à venir, la crise économique qui va arriver, elle va se traduire par une révolution sociale à côté de laquelle, dit-il ou écrit-il, la révolution française de 1789 fera pas le figure. En fait, il se place sur un plan militant, on pourrait dire. Il s'engage. C'est pas une prédiction au sens, comment dire, statistique ou
sur
deux cycles. Non, c'est aussi quelque chose qu'il appelle de ses voeux. Il est engagé aux côtés des chartistes, il est engagé aux côtés des socialistes, il est engagé aux côtés de Marx et des communistes allemands. Il est engagé auprès de, y compris de socialistes britanniques. Il écrit dans des journaux de ces différents courants. Et pour lui, la crise commerciale et industrielle qui va avoir lieu, elle doit être suivie par un bouleversement social qui remettra en cause les fondements même de la concurrence et du système industriel.
Et alors, avant d'en venir au débat historiographique autour de cet enchaînement entre crise économique et crise politique dans les années 1840, un dernier mot peut-être, Fabrice Ben-Simon, des conséquences de cette révolution française de 1848 sur les mouvements ouvriers en Angleterre. C'était l'objet de votre thèse.
Ben, disons que en Grande-Bretagne, la révolution de 1848, elle radicalise en quelque sorte les positions, c'est-à-dire qu'à la fois, elle galvanise les chartistes qui mènent leur troisième grande campagne de pétition au printemps 1848, et puis elle résile le pouvoir qui est très inquiet d'une contagion révolutionnaire, surtout que assez vite après Paris, à Berlin, Vienne, qui sont gagnés par cette vague, et qui du coup va organiser tout un système à la fois répressif, mais pas répressif au sens de massacre de masse comme il y a eu à Paris en juin, mais aussi par exemple de déportation pénitentiaire vers les colonies de forçats en Australie, de procès très nombreux, d'emprisonnement, avec encore une fois l'appui d'une petite bourgeoisie qui, bon an mal an, se retrouve dans le régime.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini. Thank you.
Écoutez Marx et Engels de Belle et Sébastien sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Retour aux révolutions de 1848 en compagnie de Patrice Bobo et Fabrice Ben-Simon. Alors les crises de 1848 ont donné lieu à différentes lectures. On peut distinguer trois historiographies principales, dont celle d'Ernest Labrousse. On l'écoute.
Il n'est pas douteux que notre révolution de 1848, cette révolution qui devait avoir, sur toute la seconde moitié du siècle, une telle influence politique et idéologique, est bien une révolution sociale, mais non point une révolution socialiste. J'imagine qu'en juin, il y avait bien autre chose à l'origine des troubles que les communistes matérialistes, si estimables d'ailleurs, et si remarquables que soit cette secte idéologique. En réalité, à l'origine des journées de juin, comme à l'origine des février 1848, que trouvons-nous ? L'orchestration d'une grande crise économique, l'orchestration d'un de ces effondrements périodiques de l'économie capitaliste, que devait d'ailleurs si magistralement décrire ultérieurement Marx dans les synthèses auxquelles je faisais allusion tout à l'heure.
Voilà un extrait de l'émission La Tribune de Paris, diffusée en 1948. La lecture d'Ernest Labrousse rejoint les analyses de Marx et Engels, Patrice Bobo.
Alors oui, mais Labrousse est un personnage un peu particulier, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a été adhérent au Parti communiste, il a d'ailleurs écrit quelques articles tout à fait orthodoxes au début des années 20 sur la révolution socialiste en URSS, mettant en parallèle, comme c'était la mode à l'époque, la révolution française et la révolution socialiste soviétique russe, et considérant d'une certaine façon que cette dernière était le prolongement ou la réalisation des promesses de la Révolution française. Donc cette idée finalement d'un mouvement révolutionnaire mondial qui conquiert progressivement les idéaux du socialisme qui se réaliseront dans le monde. Il a abandonné ça, notamment dans les années 30, face à la réalité du stalinisme. Il fait partie de ces communistes dessillés, en fait, par le stalinisme. Ils n'ont pas été si nombreux. Et ça en fait un compagnon de route mal commode pour le Parti communiste. Donc il adhère à une interprétation marxiste de l'histoire, assez largement matérialiste, dans laquelle il fait intervenir aussi des éléments culturels et idéologiques, mais il ne s'y limite pas.
Concrètement, il estime qu'à la fin des années 1840, c'est la crise agricole qui est la cause de la crise du textile et ensuite des mouvements sociaux.
Alors, c'est peut-être son plus fort point commun avec cette idée très marxiste d'une sorte de convergence de l'ensemble des crises dans la genèse d'une révolution. Parce que il va proposer un modèle d'articulation entre les différentes crises économiques et sociales qui se déroulent à cette époque-là. C'est-à-dire que la crise agricole entraîne un mécontentement des populations agraires et en même temps une réduction de leurs demandes par baisse de revenus envers l'industrie textile, qui est la première industrie. Cette industrie textile entre donc en crise puisque la demande s'est réduite et donc les ouvriers du textile voient leur salaire baisser ou sont licenciés, sont au chômage. Et cette crise de l'industrie textile accentue une crise urbaine du petit commerce, de l'artisanat, etc. Qui se traduit à son tour par des impacts sur l'économie urbaine, etc. Donc on a une sorte de transmission, de contagion de la crise qui grossit, qui est une sorte d'effet de boule de neige, jusqu'à englober la totalité du secteur productif.
Et c'est cet enchaînement sur lequel vous avez travaillé en essayant de complexifier justement l'articulation de ces différentes crises. On va y revenir, mais avant cela, voyons peut-être les autres historiographies. À la conception de Labrousse s'oppose celle de Tocqueville, qui lui ne voit pas nécessairement une rupture dans les mouvements sociaux de 1848.
Alors, Tocqueville, lui, c'est un témoin. Et c'est un témoin qui a un statut très particulier, puisque comme on l'a vu au début de l'émission, il fait ce discours quasiment prophétique en janvier 1848, qui annonce une révolution prochaine. Et lorsqu'il va écrire ses souvenirs dans les deux ans qui suivent, évidemment, il est en quelque sorte dans cette position à la fois confortable et inconfortable de celui qui a eu raison et qui a annoncé ce qui allait se passer. Donc comment est-ce qu'on peut faire l'histoire de sa propre prophétie? C'est tout le problème de Tocqueville. C'est un homme de modèle. La démocratie en Amérique, c'est un modèle social. Et en même temps, il va vouloir critiquer les modèles et donc il a une position... très ambigu. Et pourquoi? Parce que c'est un libéral aristocrate qu'il tient en fait à préserver la capacité des individus à agir sur l'histoire. Donc il se situe dans une situation, une position très différente de celle de Labrousse. Le modèle de Labrousse, lui, il entre en crise parce que, à raison, les historiens vont montrer que cette articulation des différentes crises l'une avec les autres, elle est extrêmement incertaine. Elle repose sur une simplification qui n'est pas très crédible. Et d'autre part, la tentative de l'école labroussienne d'additionner des études locales de manière à aboutir à une image globale a échoué. Mmh. On peut pas juste faire différentes pièces du puzzle et puis les assembler. Et donc, cette historiographie, elle est entrée en crise dans les années 70.
Et donc, il y a aussi une troisième historiographie que vous soulignez, Patrice Bobo, qui, elle, voit dans la Révolution de 1848 un phénomène qui serait avant tout français.
Alors, plutôt un phénomène qui serait avant tout politique et idéologique. L'idée de printemps des peuples, l'idée d'une crise européenne, il est difficile de la remettre en cause. Mais ce qu'ont apporté les années 70 et 80, parallèlement à l'effondrement du système soviétique et à la prise de distance à l'égard du matérialisme historique, c'est cette idée que finalement les discours ça compte, que les idéologies ça compte, et un regard aussi peut-être renouvelé sur la chronologie. Et ça aboutit à une lecture plus sociale, plus culturelle de la Révolution de 1848, alors que en 1948, pour le centenaire, c'était presque une évidence pour tout le monde que la crise était à l'origine une crise économique.
Alors, ce qui est intéressant avec Labrousse, c'est qu'il met en avant le fait que la crise économique de 1847 se trouve à la jonction entre les crises de subsistance de l'Ancien Régime et les crises propres aux économies industrielles. C'est l'un de ses grands apports.
Voilà, c'est-à-dire qu'il invente en fait le canard à quatre pattes, c'est-à-dire une sorte de mélange entre ce qu'il a appelé la crise d'Ancien Régime, dont l'élément déclencheur est souvent une crise frumentaire, au sens fort du terme, c'est-à-dire que ça entraîne, un peu comme en Irlande en 1848, des morts, des gens qui meurent de faim, de maladie, qui sont fragilisés, donc qui sont victimes de maladies. Et puis, ce qu'il appelle la crise moderne, et donc c'est une forme intermédiaire. Inutile de vous dire que l'historiographie a un peu mis en pièces ces constructions théoriques, et que c'est une des raisons pour laquelle les analyses, plus exactement la Vulgate de Labrousse, a été vertement critiquée. Et ce qui est dommage, parce que quand on va chercher dans les écrits, les études précises de Labrousse, son approche est beaucoup plus nuancée, en fait, que cela.
C'est-à-dire?
Eh bien, par exemple, il met en évidence le fait que c'est pas parce que vous avez une crise que vous avez une révolution derrière. Et c'est une phrase fameuse de Labrousse, il y a des crises décennales, il n'y a pas de révolution décennale. Il met en avant la dimension idéologique. Il met notamment l'accent sur ce phénomène tout à fait intéressant que les erreurs économiques ou les erreurs de conception économique finalement jouent un rôle au moins aussi important que les phénomènes réels. C'est-à-dire l'idée qu'on s'en fait a autant d'impact que le fait lui-même. Et c'est toute une dimension d'analyse labroussienne qui a été un petit peu perdue, si vous voulez.
Alors, ce que vous soulignez aussi, Patrice Bobo, c'est qu'il y a des disparités importantes selon les régions de France. Tout le monde n'est pas touché de la même façon par la crise économique et sociale. Et c'est aussi ce qui rend la lecture de cette crise, qui est tout de même la plus importante, peut-être du 19e siècle, particulièrement complexe.
Tout à fait. On a beaucoup de mal à réconcilier les analyses locales et une analyse globale. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de continuité, là. Donc, ça avait été d'ailleurs une des grandes tentatives de l'historiographie française des années 50, 60, de faire réaliser des grandes thèses, des thèses d'État sur territoires de taille limitée, avec l'espoir qu'en multipliant ces études régionales, on pourrait reconstituer une synthèse globale. Et puis, ce projet, très largement labroussien, a échoué. Et donc, on se retrouve avec, d'un côté, des données globales, constitués par des méthodes particulières, de l'autre côté des données locales constituées suivant d'autres méthodes, et le lien entre les deux est un lien qui est problématique.
Alors, ce que l'on peut constater dans les travaux de Labrousse, c'est qu'il y a un phénomène qui fragilise ces travaux. C'est le fait que la crise, en quelque sorte, avait peut-être cessé quelques mois avant les révolutions de 1848. Ça remet en question ce lien de causalité entre crise économique et révolution.
Dans cette critique historiographique où je vous ai parlé d'une sorte de raccourcissement de la chronologie, on a vu deux articles, un par Anthony Rollet, l'autre par Nadine Vivier, qui, chacun à sa façon, indique que finalement la crise s'arrête en 1847. Elle s'arrête en 1847 parce qu'il y a une bonne récolte frumentaire à l'été 1847. Donc, à partir de septembre, on assiste à une chute du prix du blé, une chute du prix du pain, et donc tout va bien. En 1847, pareil en décembre, le gouverneur de la Banque de France, et le conseil de régence de la Banque de France, met fin à l'augmentation à 5% du taux d'escompte, et il annonce lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, en janvier 1848, au même moment que le discours de Tocqueville, que tout va bien, la politique suivie est correcte et la crise se termine. Sauf que si on va voir dans les débats internes du Conseil de Régence, on se rend compte que ces gens-là sont extrêmement inquiets. En réalité, la crise ne s'est pas interrompue. Mmh. Et ça, c'est peut-être le plus gros problème. C'est de comprendre, en fait, les mécanismes de contagion et de persistance de la crise. Et on en est encore loin.
Parce qu'ensuite, la décennie 1850 va être une décennie de développements économiques importants, Fabrice Ben-Simon, et en même temps, une période de recomposition des pensées socialistes.
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui changent après 1848. Il y a un recul important du mouvement socialiste pendant quelques années, mais qui a un recul en partie superficielle, au sens où de nombreux militants continuent. Alors, il y en a qui vont en Amérique, il y en a qui se réfugient en Grande-Bretagne, il y en a qui sont emprisonnés.
Et c'est lié au fait, pardon, vous interrompre, que la plupart de ces révolutions européennes ont été marquées par la répression et par l'échec, il faut le dire.
Voilà, la plupart sont défaites, on pourrait dire. Elles sont plus vaincues qu'elles n'échouent. Et à leur suite, il y a toute une émigration, il y a de très nombreuses déportations. Mais en fait, à la fin des années 50, de très nombreux acteurs de ces révolutions de 1848, ou ceux qu'ils ont côtoyés, reprennent et s'appuyant sur un certain nombre d'enseignements de ces révolutions, essayent de perpétuer les idéaux qui les ont traversés.
Un dernier mot, Patrice Bobo, sur la postérité de cette révolution, de ces révolutions de 1848.
Moi, je dirais deux choses. La première, comme l'a dit Fabrice Ben-Simon, c'est la violence de la répression, de manière générale en Europe, qui a été extrême pour sauver l'ordre existant. Et c'est des phénomènes qu'on ne connaît plus aujourd'hui en Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, le legs est considérable, et notamment le legs théorique, c'est-à-dire que juste avant la Révolution, il y a la publication du manifeste du Parti communiste par Marx, et on peut se demander jusqu'à quel point, finalement, 1848 n'a pas permis de transformer ce manifeste dans l'œuvre qu'a été le Capital.
Et c'est l'heure du journal de l'Écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine.
Une autre guerre commerciale, cette fois elle oppose le Japon et la Corée du Sud et elle monte en intensité.
Oui, puisqu'à partir d'aujourd'hui, le Japon exclut la Corée du Sud de la liste des pays de confiance, c'est-à-dire ceux exemptés d'autorisation pour les produits sensibles. Donc, pas question de droits de douane, vous l'aurez compris. Tokyo veut en fait frapper fort quand même envers son troisième partenaire commercial. Elle veut faire levier dans un contentieux politico-historique alors que la justice sud-coréenne réclame des dédommagements à des grandes entreprises japonaises pour leur complicité pendant la Seconde Guerre mondiale. Les relations entre les deux pays se sont déjà tendues en juillet avec des premières restrictions. En Corée, le Japon a lui-même été retiré d'une liste blanche de partenaires fiables. Il y a eu un boycott des produits nippons. Alors aujourd'hui, en est-on qui souffre le plus? Pour le chercheur à Asia Centre Jean-Yves Collin, la Corée du Sud est moins bien armée car plus dépendante.
Moi, je pense que celui qui risque de souffrir le plus, c'est quand même la Corée. Et notamment à travers ces grandes firmes électroniques coréennes, car ce sont des très grandes firmes, mais ce sont aussi des firmes qui ont des besoins d'investissement, des besoins de capitaux qui sont énormes. Ce sont des industries très cycliques qui peuvent avoir des retournements de comptes d'exploitation relativement dangereux. Ça a été le cas de Hynix déjà dans le passé. Ça a été moins vrai de Samsung grâce à la qualité de leurs produits et au fait qu'ils étaient les concurrents de facto de Apple avant que les Chinois eux-mêmes n'envahissent un peu le marché. Donc je pense que les Coréens souffriront plus que les Japonais. Mais il est vrai qu'il y a des phénomènes de boycott qui ne sont pas d'ailleurs des phénomènes de boycott lancés par le gouvernement coréen, mais qui sont des phénomènes d'organisation civique qui boycottent les films japonais. Certains films japonais ont vu leur date de sortie retardée en Corée, ou par exemple les bières japonaises qui sont plus consommées, plus livrées. Et aujourd'hui, on ne voit guère de sortie de cette tension, dans la mesure où les deux présidents sont relativement crispés.
La Corée du Sud avait pourtant annoncé la mise en place d'un fonds de soutien aux entreprises mises en difficulté.
Oui, 760 millions d'euros, l'équivalent en juillet d'abord, et puis ensuite un Victory Fund privé, lui, de 30 milliards de dollars adossé à une banque créée en août pour soutenir les industries qui fabriquent ces équipements et ces produits chimiques inaccessibles. Alors, pas de nouvelles de ces fonds pour l'instant, et les seuls chiffres disponibles concernent le Japon, par exemple, moins 45% pour les importations de bière, moins 30% pour les ventes automobiles.
On passe au bref. Asie toujours à Hong Kong, la compagnie aérienne Cathay Pacific est sous double pression, celle de Pékin et celle de ses propres employés, Xavier.
Et oui, situation compliquée pour cette compagnie possédée en partie par Air China et par un fonds britannique qui vient d'interdire la compagnie les rassemblements devant son siège, puisque d'un côté l'aviation civile chinoise lui impose la suspension de ses salariés qui participent aux manifestations, mais aussi le zèle de la compagnie à les renvoyer lui vaut des accusations de terreur blanche. Je cite la Fédération des syndicats de Hong Kong, HKCTU, après déjà 14 licenciements et la démission de son président britannique Rupert Hogg. C'est une des compagnies asiatiques les plus réputées et les mieux cotées en bourse qui accumule des signes inquiétants. L'action baisse depuis juillet.
Et puis les GAFAM entrent en guerre contre la taxe numérique française.
Ah oui, du moins les trois premiers, hein, Google, Amazon, Facebook, qui dans un communiqué commun hier soir ont de nouveau qualifié la taxe, c'est-à-dire moins 3% sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, de, je cite, discriminatoire pour les entreprises américaines. Et ils ont aussi dénoncé cet accord franco-américain de lundi au G7 sur une formule internationale de la taxe avec l'OCDE. Cet accord prévoirait un remboursement des entreprises lésées en cas d'un taux international plus bas. Vague promesse, avancent les opérateurs.
On finit avec l'Italie, avec une nouvelle alliance, parti démocrate 5 étoiles pour un gouvernement en vue. Alors Salvini a été écarté. Le ministre de l'économie pourrait-il survivre au bouleversement politique,
en
Xavier?
En tout cas, c'est dans la presse italienne. Giovanni Tria, 71 ans, universitaire. Certains médias affirment que la gauche réclame beaucoup de ministères dont la justice, travail et l'économie comme signal de rupture avec Salvini, mais pas exclu qu'il reste à son poste selon d'autres médias italiens. Et pour cause, c'était un peu le négociateur avec succès d'un accord avec l'UE sur la dette italienne l'année dernière, et que son rôle dans le désamorçage de la crise qui avait été souhaité par Salvini lui a sans doute valu une réputation de sérieux.
On se quitte avec The Divine Comedy, Q-Jumper. Merci beaucoup Patrice Bobo et Fabrice Ben-Simon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on se demandera si on assiste à une accélération des cycles économiques. On se retrouve demain. N'hésitez pas d'ici là à nous retrouver sur Twitter.